questions d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, bienvenue. À cette émission, nous allons aborder la post-chrétienté au Québec avec deux invités formidables, Catherine Foissy et Frédéric Dejean, professeurs du département des sciences des religions de l'UQAM. Bienvenue.
Merci.
Merci.
Alors, vous avez étudié les christianismes au Québec. On parle bien des les christianismes au Québec. D'abord, j'aimerais un peu savoir votre intérêt. Pourquoi vous avez décidé d'étudier les christianismes au Québec?
Ben, écoutez, ça fait quand même une quinzaine d'années déjà que je travaille sur ces questions-là. J'ai travaillé d'abord sur la question missionnaire. Je suis spécialiste de la tradition catholique au Québec depuis 1840 jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, plus récemment, ben, c'est un concours de circonstances qui a fait en sorte qu'avec Frédéric, on a décidé de mettre nos expertises en commun et puis de produire un ouvrage collectif qui permettait finalement de regarder l'évolution, mais surtout l'état actuel de l'étude des christianismes au Québec.
Frédéric, votre intérêt à collaborer à cet ouvrage?
Ben, je pense que Catherine l'a dit, c'était un concours de circonstances, mais c'était aussi le souhait de réaffirmer l'intérêt d'étudier et de parler des christianismes au Québec et surtout de montrer que les christianismes, enfin qu'il y avait des traditions qui étaient très vivantes, très dynamiques et de montrer la très grande diversité que pouvait prendre le christianisme sous une forme plurielle. C'est pour ça qu'on insiste sur les christianismes pour essayer de sortir d'une image peut-être un peu trop homogène ou monolithique de ce dont il s'agit.
Alors ça veut dire que c'est plus que l'Église catholique dont on parle. Donc on va en reparler dans quelques instants. C'est pour ça que vous utilisez les christianismes.
Tout à fait.
Donc ces traditions religieuses qui se réfèrent à la personne du Christ, mais qui ont, ce soit catholique et autres aussi confessions chrétiennes. C'est bien ça?
Oui, exactement, oui.
Vous parlez de post-chrétienté au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on parle de ça? Qu'est-ce qui ça définit notre monde actuel, notre société actuelle?
Alors c'est vrai que c'est en fait, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup sous la plume de théologiens, mais plus de théologiens anglophones et dans le monde protestant, et notamment dans le monde protestant évangélique. Donc c'est beaucoup sous sa forme anglophone qu'on le trouve. Je pense que l'expression est moins courante dans sa forme francophone. Néanmoins, Catherine et moi, on pensait que c'était une notion qui était très pertinente, puisqu'elle a été formulée au départ, donc c'est un théologien britannique, Stuart Murray, qui a consacré à la fin des années 90 un ouvrage à la notion de post-chrétienté, et finalement derrière ce terme, c'est une réalité très simple, c'est la post-chrétienté, c'est un univers, une société dans laquelle la chrétienté a été dominante, a été structurante pour la société, et la chrétienté, en quelque sorte, est passée d'une position centrale à une position marginale. Et donc, un monde post-chrétien, c'est un monde dans lequel le christianisme n'a pas disparu, et ça c'est très important, c'est que la post-chrétienté, c'est pas un monde où il n'y a plus de christianisme, c'est un monde dans lequel le christianisme doit apprendre à évoluer dans une situation minoritaire. C'est ça qui est vraiment au cœur de la notion de post-chrétienté.
Alors, vous avez tout un chapitre fort intéressant sur le déclin, l'essor, la diversification et les cinq tendances identifiées au niveau des christianismes. Vous parlez d'abord du catholicisme. Quels sont les points forts que vous mettez en évidence, le catholicisme, dans ce contexte de post-chrétienté?
Bien, c'est en fait le premier chapitre à la suite de l'introduction qui permet finalement de brosser un tableau statistique. Il y a cinq grandes tendances. Je vais m'attarder aux deux premières. En ce qui a trait au catholicisme, on voit à la fois vraiment la transformation importante et rapide depuis les 10 dernières années du rapport que les Québécois entretiennent avec la tradition catholique, c'est-à-dire que il y a de moins en moins de Québécois qui s'y réfèrent comme une tradition qui est importante sur le plan culturel et même sur le plan des rites de passage. Notamment, le recours au baptême est passé dans la dernière décennie d'environ une cinquantaine de pourcentage, un enfant sur deux qui était baptisé, à aujourd'hui 19%. Là. Ça, c'est des données qui émane de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Donc, ça illustre bien qu'on est vraiment dans une phase que Meunier, Wilkins Laflamme et Legault Leclerc identifient comme étant d'exculturation du catholicisme. Donc, il y a une déliaison, si vous voulez, entre la culture catholique et la culture ambiante, ce à quoi les Québécois ne se rattachent plus. Donc, ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est qu'ils mettent en lumière dans ce premier constat-là, c'est le fait qu'il y a une diversification importante des populations, de l'origine ethnique, des populations qui sont catholiques. Et ça, c'est un élément par rapport auquel on a très peu de données. Je pense qu'on va y revenir un peu plus tard, mais c'est un élément par rapport auquel il y aurait énormément de recherches à faire. Et l'autre élément, c'est la sécularisation effective très importante des plus jeunes générations, donc la génération X, les générations Y, donc qui se réfèrent de moins en moins, en fait, qui n'ont pas connu le catholicisme, parce que c'était beaucoup moins présent à l'intérieur de la société. Donc, ça, c'est en gros ce qu'on retrouve par rapport au catholicisme. Et ensuite, il y a une deuxième tendance importante, mais qui est quand même, je dirais, assez liée, qui est la tendance, en fait, la baisse d'importance en termes statistiques qu'ont connu les églises libérales protestantes. Donc, l'Église anglicane, l'Église unie du Canada, etc., etc. Et une des raisons qu'ils invoquent, c'est le fait que les valeurs promues par ces églises-là sont des valeurs qui ont été non seulement récupérées, mais développées, mises de l'avant à l'intérieur de la société. Donc, autrement dit, il n'y a pas eu de... C'est comme si les gens, en adhérant à des valeurs plutôt libérales, ben, avaient plus nécessairement besoin de se rattacher à un fond religieux.
Il n'y avait plus besoin de se rattacher à l'Église protestante.
Absolument.
Parce que ces valeurs-là se retrouvaient dans la société. Et donc, la croyance ou l'appartenance à la communauté chrétienne protestante n'ajoutait rien, là, si je comprends.
Tout à fait.
Et il y a aussi cette minorité protestante conservatrice que vous avez aussi observée au Québec.
Oui, alors, c'est vrai que ce chapitre-là, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'il s'appuie sur des statistiques qui ont été menées par Statistique Canada. Et le Canada est un pays, c'est formidable, où on a des statistiques religieuses. Si je compare avec la France, par exemple, on n'a pas de données, on n'a pas de statistiques religieuses. Donc on doit travailler soit sur des estimations, soit sur des enquêtes, sur des sondages d'opinion qui vont, par exemple, questionner les gens sur leurs valeurs. Alors qu'au Canada, on a vraiment des statistiques religieuses où les gens sont amenés à se déclarer et à même parler de leur propre pratique. Et ce que montre ce chapitre-là et ce que montrent ces statistiques-là, c'est qu'en fait, les christianismes, c'est d'une complexité incroyable. Si vous allez sur... n'importe quel citoyenne ou citoyen peut aller sur le site de Statistique Canada et on regarde toutes les nomenclatures qui existent pour le christianisme, vous avez des dizaines et des dizaines de dénominations ou de types d'églises, et même au Québec. C'est pour ça que c'est absolument fascinant. Et il y a notamment donc cette troisième tendance qui est soulignée par les trois auteurs et autrices de ce premier chapitre, qui moi m'intéresse plus particulièrement, donc c'est tout ce qu'eux ils appellent protestantisme conservateur. Je leur laisse le choix du terme parce que personnellement je n'adhère pas, je les qualifierais de protestants évangélique. J'aime pas trop le terme de conservateur parce que le mot conservateur est tellement connoté négativement qu'il renvoie, on pense tout de suite conservateur, droite morale, États-Unis, Trump et compagnie. Bon, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'aime pas trop ce terme. Et puis en plus, conservateur nous situe tout de suite sur le plan de la question morale. Et c'est vrai qu'ils ont un aspect conservateur. Sur certains aspects, ils sont conservateurs, mais sur d'autres, ils ne le sont pas du tout.
Donc, vous préférez le terme évangélique?
Moi, je dirais protestantisme évangélique. Mais je comprends le choix qu'ils ont fait parce que le monde évangélique est tellement pulvérisé, fractionné, que les chercheurs discutent, même au sein du monde évangélique. Certains vont dire, ah oui, eux, ils sont évangéliques. Et d'autres vont dire, mais non, nous, on considère qu'ils ne sont pas totalement évangéliques. Mais disons que pour simplifier, on peut parler d'un monde évangélique, et ce que montre ce chapitre-là, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les évangéliques sont protestants, mais ce sont des protestants qui semblent tirer leur épingle du jeu, notamment en comparaison avec la tradition protestante. Hein, si vous regardez les données, par exemple, l'Église anglicane, c'est vraiment une hémorragie considérable, notamment entre 2011 et 2021, c'est-à-dire entre les deux derniers moments où on a fait des grandes enquêtes, il y a eu une baisse absolument radicale.
Et baisse de la pratique, une baisse de la fréquentation de l'Église, une baisse de l'appartenance à l'Église anglicane.
Tout à fait, alors que les évangéliques, au contraire, semblent quand même connaître une croissance. Alors, c'est tout à fait modeste, hein, on n'est pas non plus sur quelque chose d'absolument énorme, mais en tout cas, il y a certaines églises, certaines dénominations qui sont capables de conserver une certaine stabilité, voire une légère croissance.
Et qui sont très populaires.
Et qui sont assez populaires actuellement et qui parviennent à attirer du monde. Alors peut-être probablement qu'on y reviendra.
On y reviendra. Et vous avez aussi, dans ce chapitre, sur les cinq tendances identifiées, donc le catholicisme, je dirais le protestantisme des églises qui sont là depuis longtemps, donc cette minorité protestante évangélique, si je comprends bien votre argument, et aussi on oublie souvent les orthodoxes. Qu'est-ce que vous avez pu observer chez les orthodoxes?
Alors, je pense que la question des chrétiens orthodoxes, et puis ça va compléter un petit peu, il y a un autre chapitre dans l'ouvrage qui a été rédigé par Frédéric Castel et qui parle des chrétiens orientaux, qui sont des traditions chrétiennes qu'on va avoir tendance à oublier. Alors même que à Montréal, vous avez plusieurs paroisses, vous avez notamment il y a à Laval, je me souviens que j'avais fait une entrevue avec un prêtre syriaque catholique qui m'avait dit « Je suis le seul prêtre marié reconnu par le Vatican ». Donc vous avez des traditions syriaques, notamment avec des populations qui viennent du Liban, des populations qui viennent de Syrie, des communautés qui ont joué un grand, grand rôle dans l'accueil des réfugiés il y a quelques années qui arrivaient de Syrie. Et ces chrétiens-là et les chrétiens orthodoxes montrent bien le rôle que peut jouer l'immigration, parce qu'on a des églises orthodoxes ukrainiennes, ou russes par exemple, qui sont alimentés en grande partie par l'immigration. Vous avez aussi des deuxièmes générations, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que même parmi les deuxièmes générations, on a quand même des appartenances qui sont structurées, et qu'il y a quand même la volonté d'appartenir à une filiation et d'appartenir à une tradition qui renvoie pas simplement à une tradition religieuse, mais aussi à une tradition nationale. Et ça, c'est un élément qui nous semble important.
Aussi, vous avez cette dernière tendance que vous identifiez. C'est peut-être pas la dernière, mais dans l'ordre, c'est comme ça que c'est présenté. En fait, les sans-religion, est-ce que ça concerne ces jeunes particulièrement, ou des plus âgés aussi, qui connaissent l'Église catholique ou une autre tradition chrétienne, mais qui se déclarent sans religion? Qu'est-ce que vous mettez dans cette catégorie de sans-religion, Catherine?
Ben, en fait, ce sont essentiellement des gens qui ne se reconnaissent pas d'affiliation directe avec une tradition religieuse, donc avec une église qui aurait pignon sur rue. Ça peut aussi être des gens qui ont des intérêts pour la chose. Ça veut pas dire que les gens n'ont pas d'intérêt pour la chose religieuse ou même la chose spirituelle, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas dans des pratiques régulières, qu'ils ne sont pas à l'intérieur. Ils s'inscrivent pas non plus dans un héritage qui leur a été transmis, qu'ils soient chrétiens ou non. Donc, c'est un mystère là, présentement pour les chercheurs. Il y a énormément de chercheurs en sciences des religions qui s'intéressent à ce phénomène-là à partir de différentes approches pour comprendre finalement ce dont ils retournent de ce phénomène-là et voir si c'est une tendance qui perdure dans le temps ou qui retombe un peu à plat. Peut-être que Frédéric a des éléments à ajouter par rapport à cette question-là.
Oui, ben alors cette dernière catégorie que les auteurs ont mis de l'avant dans leur texte, notamment donc les sans-religion, ce qui est intéressant, c'est que c'est une catégorie qui vient questionner même la définition qu'on va apporter du religieux et qui vient justifier le fait de dire bah, certes, on parle de religieux, mais on va parler de spiritualité au sens plus large, puisque le religieux, dans l'imaginaire populaire va plutôt renvoyer à une institution religieuse, à un ensemble de rites, à des obligations, alors que la spiritualité renvoie davantage à une pratique, à une adhésion volontaire, au fait d'aller chercher des éléments à droite à gauche. Donc on peut à la fois aimer la figure du Christ tout en faisant de la méditation pleine conscience et en étant intéressé par le soufisme et la cabale. Donc en faisant un petit peu, parfois on va parler un peu de supermarché ou de bricolage religieux. Et c'est vrai que avec les sans religion, c'est une catégorie qui est très intéressante à explorer parce que c'est une catégorie qui vient questionner les limites de nos définitions. Parce que, a priori, on a toujours le sentiment que la religion, c'est un objet qui est très facile à... C'est-à-dire que quand on en voit, on sait que c'est de la religion, mais quand on doit le définir, on a beaucoup de mal à le faire. Et cette catégorie-là vient complètement nous obliger à re-questionner nos catégories.
Question d'aujourd'hui, au micro Renaud Grégoire, nous recevons Catherine Poissy et Frédéric Dejean, professeurs du département des sciences des religions de l'UQAM. Nous parlons de la post-chrétienté au Québec et aussi justement ces tendances du catholicisme, du protestantisme, de la minorité protestante évangélique, des orthodoxes et aussi des sans-religions. J'aimerais revenir justement à les sans-religions. Vous disiez que c'était un mystère d'étudier. Est-ce que on pourrait dire que ce que vous mettez dans la catégorie sans-religion, ça serait ces croyants qui n'appartiennent pas ou ne se retrouvent pas dans une église ou quelque chose d'organisé?
Oui, fort probablement qu'une partie importante de ces gens-là ont des croyances, et des croyances issues de différentes traditions. Comme Frédéric le mentionnait précédemment, effectivement, on peut tout à la fois faire du yoga, faire de la méditation pleine conscience, trouver que la figure du Christ est une figure de référence importante du point de vue des valeurs, de l'enseignement évangélique, mais en même temps, ne jamais se présenter à la messe, ne jamais demander le baptême pour ses enfants, organiser un shower de bébé qui, lui, a beaucoup de sens et fait référence à toutes sortes de traditions, même religieuses ou spirituelles.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène justement de sans-religion, alors qu'on est dans un monde quand même où on voit les églises, même s'il y a moins d'églises catholiques au niveau bâtiment, mais je veux dire, c'est visible là, dans les milieux, à la campagne. Est-ce que vous expliquez ce phénomène? Est-ce que vous considérez que c'est un rejet ou une nouvelle recherche de spiritualité, ou les deux?
Alors ça, c'est une très, 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 très grosse question, et je dirais même que c'est la question qui intéresse aujourd'hui les sociologues du religieux en contexte québécois. Si je prends ma propre recherche et mon expérience de recherche sur le monde évangélique, je dirais que les sans-religions et toute la question de la spiritualité ou le passage du religieux à la spiritualité, c'est pas tant le rejet de la religion, mais c'est un rapport complexe ou difficile avec l'institution religieuse. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, ce rapport à l'institution, parce que ce que montrent les sans-religions, quand on va dire le fait de croire sans appartenir, c'est qu'en fait, quand on dit appartenir, c'est appartenir à quoi ? C'est appartenir, on veut bien appartenir à une communauté qui fait du sens, mais le fait d'appartenir à une institution qui oblige, qui impose et qui possède une certaine dimension coercitive, peut apparaître comme quelque chose qui vient brider la liberté des individus. Et c'est vrai que dans une société où la valeur centrale, c'est quand même l'individu, sa liberté de choisir, le rapport à l'institution, immanquablement, devient problématique.
Vous mentionnez l'autonomie qui est très favorisé dans nos sociétés. En même temps, Frédéric Dejean, et là je me réfère à votre livre avec sous la direction de vous et de Catherine Foissy, étudier les christianismes dans un contexte de post-chrétienté, qui a été publié aux éditions, aux presses de l'Université Laval. C'est bien ça, et ça vient de sortir. Vous étudiez, Frédéric, particulièrement s'il y a des points de contact entre la culture actuelle et les églises chrétiennes évangéliques. Et vous avez étudié deux églises particulièrement. Parlez-nous de ça. Qui sont capables de rejoindre la culture actuelle, les sensibilités actuelles, et en même temps qui semblent rejoindre, en tout cas, ça a l'air d'être rempli, leurs lieux sont remplis, mais il y a des stratégies qu'ils ont développées. Donc, parlez-nous de ces églises chrétiennes évangéliques et des points de contact avec la culture actuelle.
Oui, alors, dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse à une catégorie d'églises que j'appelle des églises urbaines, qui sont des églises qui sont de sensibilité évangélique, et je dis bien de sensibilité évangélique parce que ces églises-là ont la particularité de ne pas nécessairement revendiquer une appartenance à une tradition théologique ou à certaines dénominations. Par exemple, ils vont pas se présenter ouvertement baptiste, même si la théologie qui sous-tend et qui irrigue l'église va être une théologie baptiste. Donc on va parfois parler d'églises qu'on va... Ce sont des églises qu'on va qualifier de non-dénominationnelles. C'est-à-dire que ce sont des églises qui se présentent comme, ils vont dire, on est chrétien, tout simplement, sans nécessairement préciser leur appartenance théologique ou dénominationnelle. Et ce qui m'intéresse avec ces églises-là, c'est que elles viennent justement questionner le rapport à la culture. Puis on en parle depuis le début, quand on parle de post-chrétienté, hein, c'est cette idée, puis... Peut-être que la sociologie des religions, lorsqu'elle s'est intéressée au processus de sécularisation, c'est-à-dire de sortir un petit peu du religieux d'une société, on s'est beaucoup intéressé à qu'est-ce qui disparaît. Hein, il y avait surtout une sociologie de la perte. Vous regardez, les gens vont plus dans les églises, les gens ne se font plus baptiser, etc. Ce qui est intéressant avec ces églises-là et avec le monde évangélique dans son ensemble, c'est que on passe d'une approche, d'une sociologie, je dirais, de la perte à se poser la question de qu'est-ce qui apparaît et qu'est-ce qui émerge. Et ça, je dirais que c'est vraiment, pour moi, ça fait quand même pas mal d'années que je m'intéresse, que je travaille sur le monde évangélique, et pour moi, la force du monde évangélique, c'est que ce monde-là, il se dit, la sécularisation, plutôt que de se lamenter sur les méfaits de la sécularisation, on va plutôt voir la sécularisation comme un ensemble d'opportunités. Puis ça, vraiment, je parle vraiment d'opportunité dans son sens propre, parce que dans mon chapitre, je fais référence, je parle d'entrepreneuriat religieux, et il y a toute une littérature en sociologie qui va justement croiser l'entrepreneuriat dans son sens le plus classique avec le monde religieux. C'est-à-dire d'essayer de voir comment est-ce qu'on fait pour entreprendre chrétien, en tant que chrétien dans une nouvelle église, dans un univers ou dans un monde qui apparemment est plutôt hostile ou en tout cas n'est pas réceptif.
Donc, ou indifférent.
Et donc c'est ce qui m'intéresse avec les deux églises sur lesquelles j'ai plus particulièrement travaillé. Donc ce sont deux églises, mais ce sont des églises qui sont multisituées. Donc
en fait, multisituées.
Alors multisituées, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le monde évangélique. Une église multisituée, c'est une église c'est une entité, mais qui possède plusieurs lieux de rassemblement. Donc c'est une église avec plusieurs lieux de culte. Donc l'une des deux est à Sherbrooke et Magog, et l'autre est à la fois à Montréal, à plusieurs emplacements à Montréal, et également présente à Gatineau. Elle était présente à Québec, mais à Québec, l'église de Québec a changé de bannière et s'est affiliée à une autre église de la banlieue de Montréal.
Mais quand vous dites église, on voit bâtiment. Est-ce qu'il est question des mêmes bâtiments qu'on connaît?
Alors, ça, c'est un point extrêmement intéressant, et les évangéliques mettent l'accent là-dessus pour eux. Une église, ce n'est pas un bâtiment. Une église, c'est une communauté de foi. Et pour eux, c'est absolument déterminant. Ce qui explique pourquoi ils mettent très peu l'accent sur le bâtiment en tant que tel n'a que peu d'intérêt. Et d'ailleurs, dans les églises que j'ai étudiées, elles se réunissent où ? Elles se réunissent dans des cinémas, dans des théâtres, dans des salles de spectacle, dans des cégeps, parce que l'église, ce n'est pas un lieu, l'église, c'est une communauté. Et ce discours-là est extrêmement important parce que ça permet de faire prendre conscience aux individus le rôle qu'ils ont à jouer dans la communauté. Parce que lorsque l'église est un lieu, on se dit, le fidèle ou la personne qui y va se dit, l'église peut exister même si j'y vais plus. Même si je ne me rends plus à l'église, il y aura toujours le lieu qui sera là.
Alors que dans ce cas-là, si la rencontre, si je comprends bien, le rassemblement se trouve dans un théâtre, dans un cinéma, eh bien ce sont les gens qui se rassemblent qui font l'église à ce moment-là et ce n'est pas lié au bâtiment.
Tout à fait. Il y a une image que j'aime beaucoup, que j'ai mis dans un texte, mais pas dans ce chapitre-là, où l'une des deux églises propose une image et on voit un jeu de Lego avec des petites briques. Et le pasteur explique que chaque personne, chaque membre de l'église, c'est une petite brique du Lego. Et en fait, ce qui vient bâtir l'église en tant que communauté, c'est chaque individu. Et que l'investissement de chacune et chacun dans l'Église est absolument crucial.
Mais à ce moment-là, ces églises vont rejoindre, c'est pas territorial, si je comprends, comme on pouvait penser, par exemple, les paroisses du côté catholique. À ce moment-là, les gens peuvent venir de différents endroits. Est-ce que les médias sociaux jouent un rôle dans ce rassemblement, dans le fait que je pense qu'il y a un certain succès, en tout cas, ça rejoint des gens?
Oui, alors ils ont beaucoup développé. Alors c'est vrai que les deux églises dont je parle dans le chapitre sont très présentes sur les réseaux sociaux, notamment parce que leur public cible, leur clientèle, hein, avec beaucoup de guillemets qu'on voudra bien mettre, ce sont essentiellement des étudiants, des jeunes travailleurs ou des jeunes familles. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers, quand on regarde un petit peu le monde évangélique à travers l'histoire, les évangéliques ont toujours été capables d'utiliser les technologies du moment pour attirer du monde. Que ça soit aux États-Unis la radio, la télévision avec les télé-évangélistes, et aujourd'hui avec Internet, vous avez des pasteurs qui sont spécialisés dans le monde numérique et leur activité se fait essentiellement en ligne.
Catherine Poissy et Frédéric Dejean étudient les christianistes dans un contexte de post-chrétienté en une minute. Quelle serait une des lignes de force que vous avez identifiées? Je sais que vous avez plusieurs chapitres dans ce volume. Est-ce qu'il y aurait une ligne de force à partager en terminant cette émission?
Bien, ce qui est clair, c'est que de notre point de vue, l'étude des christianismes au Québec s'impose parce qu'il y a réellement, il y a énormément de sujets à couvrir. Frédéric a parlé de son chapitre. Si on fait le parallèle du côté catholique, on a très peu de données. On sait qu'il y a à certains autres endroits un processus d'évangélicalisation du catholicisme, donc des paroisses catholiques reprennent des éléments des évangéliques. On sait également qu'il y a de plus en plus de prêtres issus des pays du Sud qui arrivent ici, et donc il y a une mission inversée qui se vit. Comment est-ce que ces choses-là se vivent? Il y a énormément de questions qui sont soulevées par ce livre, je pense, et qui sont porteuses pour l'avenir de la recherche.
Oui, vraiment, c'était aussi l'un des souhaits qu'on avait quand on a fait ce livre. Puis je dois le confesser, c'est que ça partait d'un constat, c'est que on avait du mal à recruter des étudiantes et des étudiants ayant envie d'étudier les christianismes. C'est très difficile. Et on voit qu'il y a une très forte disparité entre le monde anglophone et le monde francophone. Dans le monde anglophone, les étudiants étudient beaucoup plus les christianismes que dans le monde francophone. Donc avec l'ouvrage, il y avait aussi l'ambition de dire il y a matière, il y a du terrain, et puis socialement, c'est important et pertinent de le faire.
Bien, merci beaucoup Catherine Foissy, Frédéric Dejean, merci beaucoup d'avoir été à cette émission et bonne continuation dans vos recherches et dans l'intérêt que vous portez à la situation des christianismes au Québec. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Lysandre Duplé pour Radio-VM et Yannick Caron pour Radio-Galilée. Merci pour votre écoute, votre soutien, votre présence. Au micro, Renaud Grégoire, et je vous dis à bientôt.